Croire aujourd'hui, une émission présentée par Carmen.
Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et je suis contente de pouvoir partager ce petit moment avec vous et dans un premier temps avec des nouvelles de l'Église persécutée au travers de Portes ouvertes et en deuxième partie je continuerai mes réflexions sur le fait que Dieu éprouve notre foi. Le magazine de ce mois-ci de Portes ouvertes s'intitule Témoins de l'Évangile dans les pays communistes. Quels sont les derniers États communistes? Au cours du XXe siècle, environ un tiers de l'humanité a vécu dans des pays communistes ou socialistes. L'URSS était leur principal modèle. Il n'a fallu que 3 années pour voir s'effondrer la majorité de ces régimes politiques. Entre 1989 et 1992, près de 200 millions de chrétiens ont cessé d'être persécutés. Aujourd'hui, 5 États sont encore dirigés par un parti communiste unique, bien que leur mode de gouvernance soit hétérogène. Il s'agit de la Corée du Nord, de la Chine, du Vietnam, du Laos et de Cuba. Ces nations menacent-elles les chrétiens? Oui, en Corée du Nord surtout. Premier des 50 pays où les chrétiens sont le plus sévèrement pourchassés. Si dans les autres pays, les chrétiens connaissent une amélioration sensible de leurs conditions de vie, les cas de persécution sévère demeurent fréquents. Mais l'Église reste debout. De 1949 à 2019, c'était tout juste il y a 30 ans, en 1989. Enfin, je reprends. De 1949 à 2019, se sont écoulés 70 ans. Et en 1989, donc, c'était tout juste il y a 30 ans, en Europe, le communisme se fissurait puis s'écroulait, ouvrant les frontières les unes après les autres par un effet domino. Aujourd'hui, cette idéologie perdure encore. Et surtout dans quelques pays d'Asie, sous des régimes plus ou moins sévères. Le communisme n'est jamais parvenu à éliminer l'Église. Il existe sous chacun de ces régimes athées une Église vivante, persécutée à des degrés divers, et des chrétiens bien décidés à communiquer l'Évangile en dépit des barrières. Oui, Dieu continue à bâtir son Église malgré la persécution, comme en témoignent nos frères et sœurs. Le rôle de Portes ouvertes consiste à les soutenir et à leur fournir les moyens d'évangéliser pour faire des disciples de toutes les nations et même communistes. Je vais vous apporter le témoignage de Kyung-so, qui vient de la Corée du Nord. Il nous dit que la foi lui est venue grâce à Lim, un chrétien secret qui a pris tous les risques pour lui parler. Et il nous dit, au début, j'ignorais que mon ami était chrétien. Il m'a annoncé l'Évangile dans les montagnes où personne ne pouvait nous écouter. Ce qu'il faisait était illégal et dangereux. S'il avait été pris, lui et sa famille auraient fini en prison. J'aurais pu le dénoncer aux autorités en échange d'une récompense. La vie de Lim était entre mes mains. Mais Kyung-so avait peu confiance en l'État. Il voyait bien la différence entre les messages de propagande et la réalité de la Corée du Nord. Je n'ai pas dénoncé Lim. Au contraire, je l'ai écouté, très ému. Car Lim exposait sa vie pour me parler. Finalement, j'ai décidé de suivre Jésus, sachant que je courais un grand danger. ma femme et mon fils sont aussi devenus chrétiens. Kyung-so s'est retrouvé dans l'église souterraine. Il participait à la diffusion de l'évangile. Ses contacts avec les autres chrétiens se sont multipliés, mais sa foi a été découverte et il a été arrêté. Les agents ont essayé de m'utiliser pour éliminer tous les chrétiens que je connaissais, nous dit-il. En prison, malgré la torture, j'ai réussi à ne rien révéler sur mes amis chrétiens. Ils m'avaient confié leur vie, et moi, je leur avais confié la mienne. Ensuite, ma femme et moi avons été soumis au tribunal du peuple. C'est une chose effrayante. À tout moment, quelqu'un pouvait décider de nous faire exécuter. Nous n'avons été ni fusillés ni emprisonnés, mais notre maison et nos biens ont été saisis, puis nous avons été bannis dans les montagnes. Après cela, Kyung-so a eu la conviction que Dieu l'appelait hors de son pays pour diffuser le message des chrétiens persécutés. Kyung-so et sa famille ont réussi à fuir la Corée du Nord pour la Chine et la Corée du Sud où ils vivent aujourd'hui. Des actions de porte ouverte pour la Corée du Nord. Eh bien, depuis la Corée du Sud, il y a des diffusions d'émissions chrétiennes par la radio. Et depuis la Chine, il y a distribution d'aide alimentaire, vestimentaire, médicale et de la littérature chrétienne. Enfin, en Chine, il y a aussi l'aide aux réfugiés et aux victimes de trafic humain. Bien que le Seigneur vraiment soutiennent de son esprit ces personnes qui souffrent à cause de leur foi en Jésus-Christ. Je voulais vous partager deux nouvelles. Tout d'abord, le week-end annuel qui aura lieu au mois d'octobre, le 2 et 3 novembre, mais il faut s'inscrire avant la fin du mois. Et puis, le dimanche de l'église persécutée qui aura lieu le 10 novembre, donc dans toutes les églises. Alors, il y a la possibilité de se procurer un dossier pour des activités lors du culte dans votre église. Et vous pouvez l'avoir directement auprès de Portes Ouvertes. Nous allons écouter à présent un chant intitulé « C'est des dédicaces ». Nous allons écouter ce beau chant.
Tu es mon Dieu.
C'était un seul mot de toi, Seigneur, et tout change. C'est dans la louange que nos ennemis s'enfuient, dans la louange à Dieu, comme il est écrit dans la parole. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Mes amis, je vais continuer sur le thème de Dieu qui éprouve notre foi. Donc, en continuant mon témoignage qui tourne autour de la maladie de notre fils. Pour résumer, notre deuxième fils, à l'âge de 4 ans, fut atteint d'une maladie qui affectait ses plaquettes sanguines, une maladie auto-immune. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune ? C'est une maladie dans laquelle le système immunitaire de l'organisme sécrète des anticorps contre ses propres antigènes qu'il ne reconnaît pas. Et le taux des plaquettes de notre fils chutait à un taux si bas que cela pouvait provoquer une hémorragie interne fatale. Son corps se couvrait de bleu, on aurait dit un enfant battu et maltraité. Il fallait alors l'amener d'urgence à l'hôpital pour lui permettre de recevoir un traitement spécial. Et cela durait pendant des heures. Pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière émission, je reviens en arrière pour vous raconter comment nos premiers rendez-vous à l'hôpital se sont passés, l'hôpital des enfants de Bordeaux. Le professeur en hématologie qui nous avait accueillis lui fit faire des examens et lui donna un traitement qui, selon lui, réussissait pour 9 cas sur 10. Mais le traitement échoua très rapidement et lorsqu'il nous vit revenir à l'hôpital, il me confia « Madame, nous allons tout mettre en œuvre pour soigner votre enfant, mais c'est une maladie folle. Il faut prier car elle peut être mortelle. » C'est incroyable d'entendre un professeur dire cela, mais maintenant on vous dit vraiment les choses comme elles sont. Et les médecins reconnaissent leurs limites. Et celui-ci m'avait dit, nous faisons tout notre possible, mais au-delà, il y a Dieu. Et vraiment, j'étais étonnée. J'ai reçu cette nouvelle comme une massue. J'étais croyante et j'avais donné ma vie à Dieu, ce que j'avais confirmé en me faisant baptiser par immersion. Comme Jésus avait lui-même été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Je connaissais peu la Bible, mais je priais. Je priais Dieu, je voulais l'honorer. Je désirais que mon entourage puisse voir Christ vivre en moi. Et 5 ans plus tard, à l'annonce de cette terrible nouvelle de la maladie grave de notre fils, j'étais comme hébétée. Je vais redire ce qui m'est arrivé parce que c'est très important. Et puis peut-être vous pourrez vous reconnaître dans une situation comme celle-ci. Je partis faire des courses dans un supermarché et j'étais tellement abasourdie que je faisais mes courses avec mon caddie entre les rayons du magasin. Et j'ignorais tout ce qui m'entourait et je me mis à parler à Dieu. En fait, parler à Dieu, c'est tout simplement prier. Prier, c'est parler à Dieu. Et je lui dis, mon Dieu, c'est pas possible. Tu ne reprendrais quand même pas notre fils parce que tu es amour. Tu pourrais ne pas nous faire cela. Et là, aussitôt, une voix intérieure me surprit. Et pourquoi ne pourrais-je pas le faire ? N'ai-je pas le droit de vie et de mort sur mes créatures ? Alors là, je vais enchaîner. Mais Dieu me posait des questions. Et il y avait un temps de silence parce que, en fait, je devais répondre à ces questions. Et en fait, au départ, je m'étais adressée à lui en lui demandant pourquoi ceci, pourquoi cela. Et au retour, c'était lui qui me posait des questions pour que j'aille au fond de moi-même chercher les réponses. Et Dieu me disait, ça arrive à d'autres créatures et pourtant je les aime aussi. Et à qui appartient ton fils ? Peux-tu rajouter une seule minute aux jours qui lui sont comptés ? Et là, j'ai dû vraiment me rendre à l'évidence que je n'avais aucun pouvoir pour faire vivre notre fils. Et puis Dieu, là, me posa la question pour tester ma foi. Et si je reprenais ton enfant, est-ce que tu te révolterais ? Et ça allait très vite dans ma tête. Dieu attendait ma réponse et Et là, je compris que même si je me révoltais, ça ne changerait rien au fait que Dieu est Dieu. Dieu, il règne au-dessus de tout, il tient nos vies entre ses mains, et la parole de Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Nous lisons cela dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29. Il nous dit « Moi, dit l'Éternel, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, l'Éternel, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Y a-t-il un plus grand trésor que nous puissions trouver? Au-dessus du cœur de Dieu, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Il est notre Père créateur. Il nous connaît parfaitement. Il sait quelles épreuves nous devons traverser pour apprendre à grandir en lui. Là, devant mon impuissance, je reconnus la toute-puissance de Dieu et son amour, et je lui déclarai « Seigneur, la vie de mon fils t'appartient, il est à toi. Je reconnais ta souveraineté et que tu veux le meilleur pour nous. » Il est dit dans le livre du prophète Daniel que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que l'Éternel soutient le monde par sa main puissante. Cette démarche me coûta, mais elle allait apporter la paix dans mon cœur. Dieu voulait le meilleur pour mon fils, pour moi, pour ma famille, et j'avais l'assurance qu'il m'accompagnerait sur ce chemin difficile. Je voulais lui faire totalement confiance et me reposer sur lui. Nous allons marquer une petite pause musicale avec ce chant de Andy Alonso, « Je compte sur toi ». Bien plus tard, comme il y avait en moi une telle soif d'être auprès de Dieu, je lisais beaucoup la Bible. J'en avais absolument besoin, c'était la nourriture de mon âme. Et voilà, mes angoisses partaient par la prière, par la louange. Et puis voilà, j'étais bien entourée par un groupe de personnes mûres dans la foi et qui me soutenaient. Et donc plus tard, je découvris l'histoire d'Abraham et le sacrifice qu'il faillit commettre alors que Dieu éprouvait sa foi en lui demandant de lui offrir son fils Isaac en sacrifice. Vous trouverez ce récit dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Et en fait, quand j'ai lu ce récit, je me suis retrouvée au moment où Dieu me disait « Est-ce que tu me donnes ton fils ?» Et il ne s'agissait pas de faire un acte concret, bien sûr que non, mais simplement en esprit, le donner à Dieu. Et cela, est-ce que ça signifie que nous avons à sacrifier nos enfants? Mais non. Le sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli à la croix. Et il n'y a rien à rajouter à l'offrande de Christ. Car voyez-vous, le diable, il mettait des affreuses pensées dans ma tête. En fait, juste avant, quelques jours avant que notre fils ne tombe malade, Dieu m'avait mis dans mon cœur la promesse qu'il mettrait son message dans le cœur de mon époux, qui, à l'époque, rejetait Dieu. Et cette promesse, c'est incroyable, je l'avais reçue comme quelque chose de vivant, hein, des lettres de feu qui s'étaient gravées dans ma tête. Et j'avais été inondée de l'amour, de la paix, de la joie du Seigneur. Je savais que ça venait d'en haut, ça venait de Dieu. Et voilà que quelques jours après, mon petit garçon tombe malade. Et là, le temps passant, eh bien, l'ennemi venait me mettre des pensées de doute. Mais voilà, est-ce que Dieu t'a-t-il promis? Oui, Dieu m'a promis ça, il ne pouvait pas me l'enlever. Mais alors, il mettait des pensées affreuses. Eh bien, pour que cette promesse soit exaucée, il faudra que ton fils meure. Et là, je disais non, c'est pas possible. De toute façon, mon fils, Dieu n'a pas besoin de mon fils. Parce que Dieu nous a déjà donné le sien pour nous sauver. Et il n'a pas besoin d'un sacrifice humain. Jésus a tout accompli à la croix. Et c'est sa mort qui nous a donné le salut. De toute façon, Satan, tu ne peux rien faire. Parce que tu ne peux pas m'enlever la promesse. Et de toute façon, mon fils, quoi qu'il lui arrive, eh bien, j'ai donné sa vie au Seigneur. Il appartient à Dieu. Oui, c'est un gros mensonge de l'ennemi quand il vient comme ça nous torturer, nous mettre des pensées d'angoisse. Il me disait, bon, ben écoute, là aussi, c'était une conversation avec le diable. Voyant qu'il ne pouvait rien de ce côté-là, eh bien, il essayait d'autres choses. Eh bien, si ce n'est pas ton fils, c'est toi qui mourras et tu ne verras pas l'exaucement de la promesse. Et là, eh bien, je lui disais, eh bien, tant pis si je ne la vois pas. Nous lisons dans le chapitre 11 du livre aux Hébreux tout la vie de ces héros de la foi qui n'ont pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu, mais qui ont gardé leur confiance en lui. Et puis après, bien, les choses se sont réalisées. Notre vie n'est pas importante. Ce qui compte, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse, le plan de salut pour nous et pour nos familles. Le salut que Dieu nous offre est gratuit. Nous n'avons rien à payer. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de croire et accorder notre confiance en Dieu. Voilà, il faut prendre position fermement contre ces manigances et ces ruses du malin. Ce qu'il cherche, c'est vraiment à nous détruire et à nous enlever la foi, nous éloigner de Dieu. Et bien, je vois que l'heure avance. Mes chers amis, je voulais terminer par un autre petit témoignage. Sachant que les années passaient et que la maladie continuait, puisqu'il a été malade pendant 9 ans, et aucun traitement n'arrivait à libérer notre fils. J'étais tellement fatiguée que j'avais des insomnies, je déprimais, je pleurais tout le temps. Alors, je reprenais des forces dans la prière. Finalement, je finis par avoir de l'hypertension. Et il fallut que je me soigne moi aussi. Un soir, lors d'une réunion de prière, le pasteur et l'orateur demandèrent aux personnes désirant que l'on prie pour elles de s'avancer devant l'estrade. Et j'étais arrivée à un tel point de fatigue nerveuse que je m'avançais et que je tombais à genoux. Et lorsque le pasteur me demanda si j'étais bien la maman d'un petit garçon malade, j'eus soudain l'impression que c'était Jésus en personne qui s'était penché vers moi et qui me posait la question. Je m'agrippais au poignet. C'était pas le poignet du pasteur. Pour moi, c'était le poignet de Jésus. Et je répondis, oui, c'est moi, je n'ai plus de force, je t'en supplie, Seigneur, fais quelque chose. Et là, le pasteur et l'orateur prièrent pour que je sois délivrée de ce tourment et que la maladie s'éloigne de notre foyer. Dès le lendemain, je sentis l'intérieur de mon corps se détendre, car j'étais auparavant comme nouée et extrêmement crispée. En quelques jours, je fus transformée. Je fus totalement guérie de l'hypertension. Et cela fait beaucoup d'années de tout cela, et pourtant, bien, je n'ai plus jamais eu d'hypertension. Plus besoin de médicaments. Je ne prends aucun médicament. La joie et la paix du Seigneur avaient de nouveau rempli mon cœur et je remis ma confiance en Dieu. Il m'avait totalement libérée. Voilà, mes chers amis, nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Retenez cette référence. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dieu est grand, il est au-dessus de tout. Voilà, le conseil que je vous donne, c'est de louer le Seigneur, de prier, de lire la parole, parce que c'est la parole vivante de Dieu pour vous, pour chacun de vous. Par le Saint-Esprit, il vous parle dans la situation où vous vous trouvez. Et je vous encourage vraiment à entretenir votre foi de cette manière-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt à l'écoute de FM Évangile 66. Au revoir.